Chapitre 57. Le Land Rover était lourd, mais s'élevait avec souplesse sur la route en lacets qui menait à la favela. Au volant du SUV, Sébastien suivait à la lettre les indications de Christina. Assise sur la banquette arrière, la jeune carioca les avait guidés depuis la plage, leur faisant d'abord traverser les luxueux complexes résidentiels de la zone sud avant de les entraîner sur l'Estrada da Gavea, une route étroite qui serpentait à flanc de coteau, seule voie d'accès à la plus grande favela de Rio. Comme la plupart des quartiers populaires, La Rocinha était construite sur les morros, les immenses collines qui surplombaient la ville. Nicky se pencha à sa portière pour apercevoir les milliers d'habitations accrochées aux versants, un enchevêtrement de maisonnettes qui bouchaient l'horizon de leurs briques ocre et donnaient l'impression de pouvoir s'effondrer à tout instant. Au fur et à mesure qu'ils quittaient l'asphalte pour se rapprocher des collines, le paradoxe leur sautait aux yeux. C'était dans les favelas que l'on avait les plus belles vues sur la ville. Difficile d'accès, ces nids d'aigles offraient une exposition panoramique sur les plages de Leblon et d'Ipanema, mais aussi une position dominante de citadelle. Un point d'observation idéal sur la ville basse qui expliquait que les narcotrafiquants en aient fait leur quartier général. Sébastien rétrograda. Les portes de la favela n'étaient plus très loin, mais un virage en double épingle à cheveux comme un goulet d'étranglement bloquait la circulation. Seules de vieilles mobilettes et des mototaxis pétaradantes parvenaient à s'extraire du trafic. « Le plus simple est de s'arrêter ici, » conseilla Christina. Sébastien gara la voiture sur le bas-côté. Puis le groupe abandonna le tout-terrain et parcourut à pied la centaine de mètres qui les séparait de l'entrée de la Rocinha. Au premier abord, la favela n'avait rien de l'image misérable décrite dans les guides touristiques. Alors que Nicky et Sébastien s'étaient préparés à pénétrer dans un coupe-gorge, ils se retrouvaient dans un quartier populaire et bon enfant. Les rues étaient propres et les maisons bétonnées, reliées à l'eau courante, à l'électricité et aux chaînes câblées. Certains petits immeubles montant jusqu'à 3 étages étaient certes recouverts de graffitis, mais ils étaient colorés et apportaient une touche de gaieté et de bonne humeur. « À Rio, plus d'un carioca sur 5 est un favelado », expliqua Christina. « La plupart des gens qui habitent ici sont des travailleurs honnêtes, des nourrices, des femmes de ménage, des chauffeurs de bus, des infirmières et même des professeurs. » Nicky et Sébastien reconnurent les odeurs d'épices, de brochettes et de maïs qu'ils avaient découvertes sur la plage. Entre langueur et léger bouillonnement, l'ambiance était plutôt sereine. Du baile funk, écouté à tue-tête, s'échappait des habitations. Dans la rue principale, des gamins tapaient dans un ballon en se prenant pour Neymar. Attablés à des terrasses, des hommes de tout âge sirotaient des bouteilles de Bamberg Pilsen, pendant que des femmes, parfois très jeunes, s'occupaient de leurs bébés ou jacassaient, accoudées aux fenêtres. « L'armée et la police ont fait une descente dernièrement », s'excusa Christina alors qu'ils passaient devant une immense fresque bariolée criblée d'impacts de balles. Puis ils quittèrent les axes principaux pour s'enfoncer dans un dédale d'artères pentues et étroites. Un labyrinthe de ruelles escarpées qui se resserrait en escalier. Progressivement, l'ambiance se transforma et la favela apparut sous un aspect moins séduisant. Désormais, les maisons ressemblaient à des embarcations colmatées après un naufrage. Les ordures s'amoncelaient devant les portes et les enchevêtrements de câbles électriques pendaient au-dessus de leurs têtes révélant des branchements anarchiques. Un peu inquiets, Nicky et Sébastien peinaient à s'extraire de la masse de gamins qui se pressaient autour d'eux pour demander l'aumône. À présent, les rues n'avaient plus de noms, les maisons plus de numéros, les ombres menaçantes des bâtisses planaient sur les égouts à ciel ouvert. De l'eau croupissait dans les recoins, attirant des nuées de moustiques. La municipalité se contente trop souvent de ne ramasser les poubelles que dans les rues principales, expliqua Christina. Guidée par la jeune serveuse, le trio pressa le pas, faisant déguerpir les rats sur son passage. 5 minutes plus tard, ils débouchèrent sur un autre versant de la colline abritant des maisons encore plus décaties. « C'est ici, » dit-elle en toquant contre la vitre d'un appartement dont la façade tombait en décrépitude. Après une courte attente, une vieille femme au dos voûté leur ouvrit la porte. « C'est la mère de Flavia, » leur apprit Christina. Malgré la chaleur, elle était enveloppée dans un châle épais.
Bom dia, signora Fontana. Você já viu Flavia?
Hola, Christine.
La salua la vieille avant de répondre à sa question en restant dans l'entrebâillement. Christina se tourna vers les larabies pour traduire. Madame Fontana n'a plus de nouvelles de sa fille depuis 2 jours et... » La jeune femme n'eut pas le temps de finir sa phrase que déjà l'autre reprenait la parole. Ne comprenant pas un mot de portugais, Nicky et Sébastien en furent réduits à assister en spectateur passif à la conversation des deux Brésiliennes. « Comment cette femme peut-elle avoir une fille de 20 ans ?» se demandait Nicky en observant la vieille carioca. Creusée par des rides profondes, son visage était buriné, déformé par l'inquiétude et le manque de sommeil. On lui donnait facilement 70 ans. Entrecoupée de gémissements plaintifs, sa logorée était insupportable. Christina fut obligée de l'interrompre pour expliquer. Elle dit qu'en début de semaine, Flavia a hébergé dans sa maison un jeune Américain et sa sœur. Nicky ouvrit son portefeuille pour lui tendre une photo des jumeaux.
« Eles são os únicos! Eles são os únicos !»
les reconnut-elle. Sébastien sentit son cœur s'accélérer. Jamais il n'avait été aussi près du but. « Où sont-ils allés ?» la brusqua-t-il. Christina poursuivit. « Avant-hier, des hommes armés ont débarqué chez elle au petit matin. Ils ont enlevé Flavia et vos deux enfants. »« Des hommes ? Mais quels hommes ?»«
Os seringueros !» cria la vieille. « Os seringueros !»
Nicky et Sébastien pressèrent Christina du regard. « Les seringueros !» bredouilla-t-elle. « Je ne sais pas de qui il s'agit. » Les cris avaient attiré le voisinage. Pendus aux fenêtres, les cancanières avaient abandonné leur telenovelas pour se régaler du spectacle de la rue. Autour de la maison, des hommes au regard pesant écartaient les enfants pour appréhender la situation. Christina échangea encore quelques mots avec la vieille. « Elle accepte de nous montrer la chambre de Flavia, » annonça-t-elle. « Il paraît que vos enfants y ont laissé des affaires. » Nerveux, Nicky et Sébastien suivirent la femme dans sa masure. L'intérieur du logement était aussi peu confortable que l'extérieur le laissait présager. Assemblée à la hâte, des planches de contreplaqué tenaient lieu de cloison. La chambre de Flavia n'était qu'une pièce commune flanquée de 2 lits superposés. Sur l'un des matelas, Sébastien reconnut le sac de voyage en cuir caramel que Camille utilisait dans ses déplacements. Fébrile, il se jeta sur le fourre-tout et en retourna le contenu. Un jean, 2 pulls, des sous-vêtements, une trousse de toilette. Rien de particulier, sauf peut-être le téléphone portable de sa fille. Il essaya d'allumer l'appareil, mais la batterie était à plat et le chargeur avait disparu. Frustré, il glissa le portable dans sa poche pour l'examiner plus tard. En tout cas, il tenait une piste. Avant d'être kidnappé par ces mystérieux seringueros, Camille et Jérémy étaient donc bienvenus ici avec la jeune Brésilienne. La vieille femme avait recommencé ses jérémiades. Elle criait, pleurait, octait, prenait Dieu à témoin, levait le poing. La jeune serveuse incita le couple à sortir. Dehors, les esprits s'échauffaient aussi. Des voisins totalement étrangers à l'affaire s'étaient rapprochés et prenaient un plaisir manifeste à mettre de l'huile sur le feu. Une petite foule grondait devant la maison. La tension devenait palpable. L'hostilité grandissait. Ils n'étaient visiblement plus les bienvenus dans ce quartier. Soudain, la vieille les apostropha directement. « Elle dit que c'est à cause de vos enfants que Flavia a été enlevée, » traduit Christina. « Elle vous accuse d'avoir attiré le malheur sur sa maison. » Le climat s'envenimait. Un favelado un peu éméché bouscula Nicky et Sébastien évita de peu un saut d'épluchure lancé d'une fenêtre. « Je vais essayer de les calmer. Partez. Je rentrerai par mes propres moyens. »« Merci, Christina, mais partez !» répéta-t-elle. « Je crois que vous n'avez pas conscience du danger. » D'un signe de tête, Nicky et Sébastien se résignèrent à quitter la jeune carioca sous les injures et les menaces. Ils rebroussèrent chemin au pas de course, s'efforçant de retrouver leur route dans le lacis de ruelles étroites et escarpées qui irriguaient la favela. Lorsqu'ils atteignirent le virage en double épingle où ils s'étaient garés, leurs poursuivants s'étaient découragés. Mais leur voiture avait disparu.